Et puis nous sommes également en compagnie de trois personnes qui vont également faire entendre leur voix cet été sur France Culture. Judith Pérignon, bonjour.
Bonjour.
Vous allez faire un portrait dans Les Grandes Traversées de Mohamed Ali. Vous allez nous présenter ce boxeur. Nous sommes également en compagnie de Julie Clarini. Bonjour Julie Clarini.
Bonjour.
Vous allez nous présenter un Saint-Simon, mais alors le comte de Saint-Simon, et nous dire en quoi celui-ci est notre comte. Contemporain. Et puis à côté de moi également Fabrice Midal. Bonjour, vous êtes
Bonjour.
Philosophe et vous allez nous parler d'une personne qui s'aimait bien, je crois, Narcisse.
Pas complètement, justement.
Vous allez nous dire quelles sont les ambiguïtés de ce personnage. Mais tout d'abord, peut-être parler de Mohamed Ali en votre compagnie, Judith Pérignon. Vous aimez les lutteurs, vous étiez intéressé à Bruce Springsteen. Aujourd'hui, vous vous intéressez à Mohamed Ali. En quoi ce boxeur a-t-il retenu votre attention ?
Mais je crois que c'est un des hommes les plus célèbres de la planète parmi toutes les générations. C'est un homme qui a capté toutes les convulsions des années 60, et la boxe est en plus une métaphore incroyable de la lutte et de la survie. Donc moi, depuis que je suis sur ce sujet et que j'en parle autour de moi, j'entends des gens de toutes les générations, des gens qui me disent qu'à la Goutte d'Or dans les années 60, on était captivés par les matchs de Mohamed Ali, que dans le Maghreb c'était la même chose, évidemment aux États-Unis toute la question noire, les combats pour la libération et la fierté noire, c'est toute la fierté noire, puis toute la négritude, c'est l'Afrique aussi. Mohamed Ali, en fait, sa vie contient tout, sa vie contient toutes les fractures humaines, et puis des sujets, il n'était pas politique, mais il l'était par essence.
Si, assez...
Il disait toujours, je ne fais pas de politique, mais c'était un homme qui s'est engagé très fortement dans un mouvement qui est assez peu connu, qu'on appelle Nation of Islam. C'est un musulman jusqu'au bout de sa vie, c'est ça qui a tenu sa vie, qui a primé, qui a par exemple fait qu'il a refusé d'aller au Vietnam. C'est cette décision, c'est une décision d'abord d'un mouvement religieux. Et tout ça, c'est pas très connu au fond. C'est une idole, c'est une icône, mais la légende efface un peu les points vraiment importants de l'histoire, et c'est bien de retourner vers les gens qui l'ont connu, qui peuvent le raconter.
Mais c'est peut-être un exemple justement sans précédent de boxeur avec une dimension politique. Vous en connaissez d'autres, des boxeurs ayant eu justement ce rôle politique, puisque lui aujourd'hui apparaît vraiment comme justement l'icône d'un certain nombre de luttes que vous venez d'évoquer.
Y a eu des grands boxeurs noirs avant lui. Il y a eu Jack Johnson qui a terrassé le blanc. C'est la première fois qu'un homme noir terrassait le blanc. Et lui, effectivement, a pris en charge cette fonction-là. Et même, il avait souvent des adversaires noirs qu'il traitait d'oncle Tom tout le temps, alors que c'était des hommes à la peau bien plus noire que lui encore. Mais il a pris cette fonction sur le ring et hors le ring d'incarner comme ça la fierté de l'homme noir. Et il l'a fait d'une manière presque qui le dépasse. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui dans les gens qui aiment Mohamed Ali, qui ont écouté les matchs de Mohamed Ali, on a retrouvé comme ça un des enfants qui courait derrière lui à Kinshasa en 74, qui est aujourd'hui le père de Tony Yoka, le champion olympique de boxe, et que voulant regarder le match avec lui dans son pavillon de Chanteloup-Lévin, il a une voix, mais il déborde d'émotion comme si c'était hier.
Son rapport à la violence ?
C'était pas un homme violent. Sur le ring, c'était un vrai très bon boxeur. Mais qui voulait que ça dure, donc il ne cherchait pas le chaos en deux rounds, il voulait que ça dure.
On parlait de l'élégance de ses mouvements.
Oui, c'était un homme très rapide, un danseur. D'abord, il était très fort pour se plonger. Il n'était pas du tout dans une boxe orthodoxe, justement. Il évitait les coups, il dansait, il tournait. Donc, il a même changé les canons de la boxe.
Lambert Wilson, un boxeur qui danse. Bon, il ne chantait pas, lui.
Ah, il chantait très bien.
Mais il chantait très bien ?
Ah bah oui, il chantait très très
mince.
Bien. Mince. Vous l'entendrez chanter dans La Grande Traversée.
Bon, alors Lambert Wilson, il est comme vous. Peut-être que vous ne boxez pas, je ne sais pas.
Non, je ne suis pas narcissique au point de tout ramener à moi et tous les personnages célèbres de l'histoire de l'humanité, non. Mais c'est un personnage qui me fascine énormément. Je n'aime pas la boxe, je ne supporte pas quand les gens se tapent dessus. Donc je ne suis pas attiré par ça. Mais il y a un courage chez lui, il y a une détermination, il y a une force qui est aussi la lutte du peuple noir en Amérique qui m'émeut beaucoup, c'est vrai.
Sandrine Trainer, d'autres grandes traversées à côté donc de ce portrait que Judith Pérignon va faire de Mohamed Ali.
Et oui, parce que, comme vous le savez, l'été sur France Culture, c'est le temps de raconter des grandes histoires, de prendre le temps, le plaisir, la liberté, et de les raconter, de les écouter à la radio, de les écouter autrement, du reste, sur son ordinateur ou grâce à son smartphone. Ce sera partout et tout le temps, et on commencera en effet à partir du 16 juillet. Ce sera avec une autre forme d'intensité que celle que l'on a entendue dans la voix de Lambert Wilson lisant des lettres d'Albert Camus. Ce sera le début de la semaine suivante. Alors on commence avec Mohamed Ali et puis il y aura, alors vous savez, hein, c'est du lundi au vendredi, c'est de 9h à 11h. C'est une grande enquête documentaire. Nous entendrons également un grand portrait, alors, de personnages tout aussi intenses mais très différents. Il y aura un Jeanne d'Arc, il y aura un Sigmund Freud, il y aura tout en archive une Simone Veil qui sera dimanche emmenée avec le corps de son mari au Panthéon. Et puis, quand on fait une énumération, il y en a toujours une qui vous manque. Et ça se repère à chaque fois, ça se vérifie à chaque fois. Évidemment, Alan Turing, l'énigmatique Alan Turing, vous savez, le père peut-être d'une grande partie de notre civilisation actuelle, faite d'intelligence artificielle et de machines.
Ils sont un peu tous des lutteurs, finalement.
Ce sont tous des lutteurs dans leur... Ce sont tous, en tout cas, des grandes personnalités. Peut-être que toutes les grandes personnalités sont-elles des personnes en lutte.
Judith Pérignon, justement, qu'est-ce que vous avez découvert lorsque vous êtes penchée sur Mohamed Ali, sur sa vie, sur ses combats?
Il y a un des points, moi, qui m'a fascinée, que je connaissais pas du tout, c'était sa relation à Malcolm X. C'était deux hommes très proches qui sortent de la même matrice. Et donc, on suit aussi la fin de Malcolm X et l'idée radicale. On revisite, au fond, tous les mouvements et tous les courants de pensée libérateurs des Noirs américains. Et ça, c'est une relation fascinante qu'ils ont eue et qui est pas très connue. Ça, c'est un des points qui m'a le plus touchée. Et effectivement, cet impact qu'il a eu chez les gens. On a vraiment trouvé des gens qui l'avaient accompagné, un journaliste qui était stagiaire du New York Times et qui l'a accompagné jusqu'au bout. Mm-hmm. Ses amis qui se convertissent avec lui et qui sont aujourd'hui des imams des quartiers populaires noirs américains. Et écouter leur voix, c'est des gens qui vont disparaître bientôt, et écouter leur voix rentrer dans les détails, c'est une histoire qui décante encore dans leur tête, parce qu'elle n'est pas réglée, et ils sont vraiment, vraiment très touchants.
Et donc on va l'entendre chanter, et il chantait quoi ?
Alors il chantait parce qu'il chantait tous les standards, il y a une très belle version de Stand By Me, quand il est déchu de son titre, on le retrouve dans un petit théâtre de Broadway avec un rôle comme ça, il chante Black Balloon, il a un costume sur scène, il a une magnifique voix, et en revanche il appartenait à un mouvement qui n'aimait pas la musique, donc il était interdit de chanter, mais il est plein de contradictions, Mohamed Ali, il est fascinant.
Quelles autres contradictions, puisque finalement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant chez les êtres, leurs contradictions.
Une des contradictions, c'est, au fond, c'est un jeune môme qui rêve de gloire, d'argent et de titre, et ça commence bien pour lui, puisqu'il est médaillé olympique. Puis quand il rentre chez lui, il n'est plus qu'un nègre, il n'a pas le droit d'aller là où les nègres n'ont pas le droit d'aller. Et donc, finalement, être moi et être les autres. Et il est toujours, lui, il rêve juste de sa carrière. Et au fond, il est pris dans cette époque et il doit incarner tous les autres. Et de temps en temps, il voudrait juste être à lui-même. Et il va, il vient et il appartient à ce mouvement qui lui commande beaucoup de choses. Et il est fidèle. Voilà, c'est le balancement des hommes en lutte, en fait.
Quand vous êtes lancé dans cette grande traversée, après avoir fait Springsteen, qui a eu beaucoup d'échos l'année dernière, Judith Pérignon, est-ce que vous avez trouvé des points communs ? Est-ce que l'un explique l'autre, sont deux portraits de l'Amérique. Et
l'une blanche, l'autre noire. Mais quand on s'intéresse aux États-Unis, on se rend compte qu'ils sont toujours finalement derrière... Il y a toujours des pans de l'histoire américaine, des communautés américaines, des générations américaines qu'on retrouve. Donc là, on retrouve la guerre du Vietnam, effectivement, puisqu'on est toujours dans ces années 60, 70. Et c'est le pays de l'individualisme, et pourtant, moi, je trouve que c'est un pays où on appartient toujours à un bloc, et l'arrière-plan est toujours très fort. Donc on retrouve effectivement, de là d'où on vient, on doit se situer par rapport à certains sujets, et c'est ce qui est fascinant dans l'histoire américaine.
portrait de l'Amérique, portrait de la France avec vous, Julie Clarini, avec Saint-Simon, avec le comte de Saint-Simon. Vous allez proposer une série d'Avoir raison avec, ça va être du 2 au 6 juillet, Avoir raison avec, donc c'est de 12h à 12h30 sur l'antenne de France Culture. Et ce comte de Saint-Simon, on dit qu'il a une actualité vibrante qu'il pourrait aujourd'hui inspirer, par exemple, la politique de la France. Qu'est-ce que vous y avez retrouvé chez ce Saint-Simon-là?
Oui, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il inspire la politique de la France, mais j'ai pris vraiment au pied de la lettre le cahier des charges de l'émission. Je me suis demandé quel était le penseur qui aujourd'hui avait des résonances dans le monde contemporain, dans la politique aujourd'hui. Et je me suis souvenu que à ce micro-là, sur France Culture, Emmanuel Macron, qui était alors candidat, avait dit dans l'émission d'Emmanuel Laurentin, sur son imaginaire historique, Emmanuel Laurentin lui avait posé la question, mais est-ce qu'on pourrait vous rapprocher de Saint-Simon ou du Saint-Simonisme? Et il avait dit, oui, c'est une des filiations qui m'intéresse ou que je peux reconnaître. Et ensuite, vous savez comment ça marche, tout le monde est allé relire Saint-Simon, et puis on s'est dit, ah, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et alors, en effet, c'est assez fabuleux, parce que Saint-Simon, c'est un personnage, pour Happy Few, c'est le contraire de Mohamed Ali, dont on parlait, ou de Freud, c'est quelqu'un que peu de gens connaissent, qu'on confond toujours avec le duc, alors qu'il n'est que le neveu du duc. Donc c'est pas le mémorialiste, c'est un utopiste du début du 19e siècle, qui marque en fait la pensée du 19e de manière absolument extraordinaire, mais dont on n'a plus idée parce qu'il a été ensuite beaucoup, beaucoup occulté. Mais le Saint-Simonisme, il est le seul avec Marx à donner son nom à un courant d'idées qui traverse le siècle, qui est le Saint-Simonisme. Et le Saint-Simonisme, c'est en effet une pensée dans laquelle on peut trouver des échos avec ce que nous propose le président de la République, puisque c'est un homme qui arrive avant la grande partition entre le libéralisme et le socialisme. C'est un homme dont on peut dire qu'il ni de gauche ni de droite. Et donc il y a en effet à l'intérieur de la pensée de Saint-Simon des choses qui sont intéressantes pour reprendre le programme d'Emmanuel Macron. Mais je rassure tout le monde, on ne parle que de Saint-Simon, seulement quelques allusions de temps en temps à Emmanuel Macron, ce sont les vacances. Et donc...
Oui, non, l'une des raisons de s'intéresser à Saint-Simon, et c'est ça à mon sens qui en fait un personnage remarquable dans l'histoire intellectuelle de la France, c'est que c'est l'un des rares penseurs qui soit un penseur de la modernité, de la modernisation de la France, parce que on s'y connaît très bien en anti-moderne, et bon, on a commencé d'ailleurs par le duc de Saint-Simon, qui même par rapport à Louis XIV était un anti-moderne, Saint-Simon, lui, voudrait que la France entre plus vite dans la modernité.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui, en fait, il vit la Révolution française. D'ailleurs, il aime la Révolution française, il se fait débaptiser, il abdique son titre de comte, il se fait appeler Monsieur Bonhomme. Avant, il est allé en Amérique faire la Révolution américaine, donc c'est vraiment quelqu'un d'engagé dans ses idées. Après, ce dont il s'aperçoit, c'est que la Révolution n'a pas accouché d'un nouvel ordre, mais d'un grand désordre. Et ça lui va pas du tout, ce corps déchiré de la société. Et donc, il essaye d'inventer un autre monde. Ce qui est génial chez Saint-Simon, son idée qui fait que Durkheim, je sais que vous avez un faible pour Durkheim,
j'en ai un.
Guillaume, qui fait que Durkheim, il voit le père de la sociologie, c'est qu'il a l'idée que comme les sciences naturelles, on pourrait organiser la société sur un mode scientifique. Et donc c'est le premier qui pense intégralement une société comme un système dans lequel tout le monde pourrait travailler. Alors c'est fondé sur le travail et la fraternité, dans lequel tout le monde pourrait travailler pour le plus grand bonheur de tous. Et en ça, il est effectivement celui qui va imaginer la France de demain, la France de la circulation. Il faut que tout circule pour que tout aille bien. Et ses disciples, les Saint-Simoniens, vont par exemple être les grands acteurs du chemin de fer, du télégraphe, du grand réseau de banques. Donc effectivement, les Saint-Simoniens, sous le Second Empire, vont être les agents de la modernisation de la France.
Voilà l'idée qui est finalement une idée pré-marxiste, selon laquelle la manière de produire définit finalement une manière de vivre ensemble.
Oui, bah d'ailleurs, Marx l'a lu, hein, bien sûr. On classe souvent Saint-Simon dans les socialistes utopistes, et c'est Saint-Simon et Engels qui l'ont mis dans cette catégorie.
Alors, il n'y a pas que Saint-Simon qui a raison cet été, Sandrine Trainer.
Ouais, j'assume mon rôle de chef de train aujourd'hui. Je rêvais de ça, d'ailleurs, d'habiter dans une gare de voies secondaires.
Saint-Simon aimait beaucoup les trains.
Ben oui, il avait bien raison.
Mais il voulait des
alors,
trains
si, qui on arrivaient à si on récapitule, de 9h à 11h après les matins d'été, ce seront les grandes traversées. De 11h à midi, toute notre collection de masterclass, Lambert Wilson nous en avait donné une du reste l'année dernière. j'en profite pour mentionner que nous avons dimanche en direct et en public à la Maison de la Radio, je crois qu'il reste une quinzaine de places, la dernière émission de l'Esprit Public par Émilie Aubry en direct. Et ensuite, Ibrahim Malouf, qui nous avait offert le générique du nouvel Esprit Public, sera là, à la Maison de la Radio, nous donnera une masterclass, quoi qu'il reste quelques places, vous pouvez vous inscrire. Et donc ensuite, après 11h midi, les masterclass, ce seront effectivement les Avoir Raison avec, et après le comte de Saint-Simon et Julie Clarini, ce seront Françoise Héritier, Jules Michelet, Emmanuel Berle, Georges Bernanos, Louis-Andréas Salomé, Claude Lévi-Strauss et Alexandre Solzhenitsyn, avec lesquels nous passerons la semaine.
Des gens qui avaient raison, d'autres qui avaient tort, voilà, je vous laisserai tous choisir les uns et les autres, mais à 8h38 sur France Culture, puisque c'est l'été sur France Culture, un autre cadeau, la lecture d'une autre lettre d'Albert Camus par Lambert Wilson, c'est une lettre du 25 avril 1950.
Adressée à Maria Cazares, mardi 19h, 25 avril 1950. Le soir tombe, c'est l'heure difficile. Pourtant, j'ai été toute la journée soutenue par ton coup de téléphone. Merci, mon amour, d'y avoir pensé. Il y avait bien l'impossibilité où j'étais de laisser parler mon cœur. Mais tu as senti ma joie et mon émotion, n'est-ce pas ? Non, il n'est pas possible que 3 mois se passent encore sans que nous puissions nous serrer l'un contre l'autre. Il faut aviser, faire des plans. Mais il est vrai aussi que je ne vois rien pour le moment. Hier, aujourd'hui, le ciel s'est découvert, peu à peu. Mais un vent à vous couper le souffle s'est alors levé. Hier soir, j'étais glacé. Je me suis soigné, préventivement, et je pense que je ne repiquerai pas ma grippe. J'ai travaillé, ou plutôt, j'ai mis mon nouveau chantier en ordre. J'ai reçu peu à peu ton coup de téléphone, une lettre de Dolo qui me parle de toi, en effet. Elle a un visage perpétuellement sur le point de s'envoler. Et plus loin, d'ailleurs, je crois que vous vous ressemblez. Ça me fait plaisir, bien sûr. Quand tu auras digéré sa manière de parler, argot plus mots d'anglais, 10 ans d'Amérique, tu verras que c'est le cœur le plus généreux et le plus sensible. Je l'aime bien, même quand elle me fatigue, ce qui chez moi est une limite. Ta lettre, reçue hier, avait accru mon inquiétude devant tes folles journées. Tu as bien fait de me rassurer ce matin, et pourtant... Des mots de ta lettre me restaient comme une joie égoïste. Te dédier mon existence entière et d'autres. Si seulement tu étais là. Mais à ce sujet, ne te tourmente pas. Je comprends bien que la chose n'est pas possible. Et il est vrai que tu ne serais pas ce que tu es si, pour la joie d'une réunion, tu jetais au chômage des camarades. C'est bien dur pourtant et... Je ne peux m'empêcher d'attendre je ne sais quel miracle comme l'incendie du théâtre Héberto. Que ta voix était proche, mon amour, ma jolie, mon cher enfant. Si proche que l'espace d'une seconde, j'ai senti en moi quelque chose qui ressemblait à du désir et bien d'autres choses qui toutes voulaient parler. Et tu me demandais si je t'aimais. Chérie, j'attendrai ta lettre de demain pour y répondre ici. Je vais aller dîner. Puis je reviendrai essayer de travailler un peu. Pour ce soir, je voulais me serrer un peu contre toi, entre le jour et la nuit, et te dire le mal que me fait ton absence. Je t'aime, oui, sois-en sûr au moins, et veille sur toi, je t'en supplie, mon amour. Ah.
Merci beaucoup, Lambert Wilson. Très belle lettre d'Albert Camus à Maria Cazares. Sandrine Hameau.
Lambert Wilson me permettra de dire à sa place que pour se serrer contre cette correspondance, on peut aussi se reporter à la lecture des lettres que vous avez enregistrées avec Isabelle Adjani et qui est disponible en CD chez Gallimard.
Merci de le mentionner.
Fabrice Midal, vous allez défendre quelqu'un de difficile à défendre. En tout cas, en général, on dit qu'il n'est pas facile de dire du bien de cet être. Narcisse ?
En effet, aujourd'hui, narcissique, c'est une insulte indiscutable. C'est vrai, c'est vraiment notre faute. Toute la journée, on peut entendre toute la journée, on est trop narcissique, il faut pas être narcissique. Et la première chose, c'était, qui m'a frappé, c'est, mais qu'est-ce que ça peut vouloir vraiment dire, être trop narcissique? Est-ce qu'on pourrait trop s'aimer? On pourrait mal s'aimer, mais trop s'aimer? Est-ce que nous nous respectons trop? Et en regardant autour de moi, j'ai été frappé de voir que la plupart des gens se maltraitent des fois s'auto-exploite jusqu'au burn-out, et je me suis dit, notre temps manque de narcissisme. Mais bon, vous allez dire, quand même, c'est un peu fort. Alors je me suis penché dans l'histoire de l'Occident pour essayer d'examiner cette figure de Narcisse. Et oh, surprise, jamais, dans toute l'histoire de l'Occident, Narcisse n'a été la figure de l'égocentrisme, de la perversion, mais toujours une figure de la jeunesse et de l'innocence. Et donc, ce que je voudrais montrer cet été, c'est enfin réhabiliter Narcisse, parce que plus que jamais, nous avons besoin de Narcisse, parce que nous avons besoin de faire la paix avec nous-mêmes et de sortir de ce déni de nous-mêmes.
Il y a une galerie donc de penseurs, de littérateurs qui sont penchés sur Narcisse.
Alors d'abord, le grand texte sur Narcisse, c'est le texte d'Ovide. Et on raconte que chez Ovide, Narcisse serait amoureux de lui-même, et serait tellement amoureux de lui-même qu'il en mourrait. Et quand j'ai lu le texte d'Ovide, oh surprise, Narcisse ne se reconnaît pas. Il aime bien l'image de la beauté, mais il ne voit pas que cette image, c'est lui. Et Ovide ça, lui parle, l'amant lui dit, mais tu te rends pas compte que c'est toi que tu aimes. Et quand Ovide se voit, au début, il est tout à fait malheureux. Il est malheureux de n'aimer que lui. Donc, Narcisse n'est pas du tout amoureux de lui-même. Et tout le travail, c'est d'apprendre peut-être à s'aimer, à se reconnaître, à se rencontrer. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à se rencontrer. J'avais une collègue qui a fait un burn-out et je la voyais jour après jour s'étioler. Et j'essayais de lui parler, mais elle ne voyait pas ce qui lui arrive. Elle était vraiment le coupé du narcissisme. Et donc, je crois que se tourner vers Narcisse peut beaucoup éclairer notre propre monde. Et c'est absolument frappant parce que Narcisse, donc, apparaît chez Ovide. Il y a le très célèbre tableau de Caravage où on voit quoi ? Pas du tout un vieux monsieur complètement vaniteux, mais on voit la jeunesse et l'innocence. Après, le grand peintre qui a peint Narcisse, c'est Nicolas Poussin, qui l'a peint 5 fois. Et chaque fois, c'est une figure de la jeunesse. C'est quand même incroyable que la figure de la jeunesse et de l'innocence devienne la figure de la perversion. Et même chez Freud et dans la psychanalyse, le narcisse devient une force nécessaire à l'éclosion de la vie. Et donc, c'est vraiment cet étonnement qui m'a surpris. Puis, à la fin du 19e siècle, à partir de Mallarmé, chez Rilke et chez Valéry, Narcisse devient... Il fait un comeback absolument central. Tout le monde se tourne vers Narcisse parce qu'il devient une figure pour lutter contre la normativisation et le conformisme. Et il devient une manière d'arriver à penser la liberté. Du reste, c'est ce que dira Lou Andrea Salomé, qui va se tourner vers Narcisse en disant que Narcisse est la possibilité de dire oui ou de dire non et d'inventer sa propre vie.
Lambert Wilson, j'ai lu dans les entretiens que vous avez donné à Hervé Pons, qui sont publiés aux éditions du Rocher, qu'on pouvait aussi être acteur parce que finalement on en avait assez de soi et qu'on voulait être un autre.
Oui, en fait, par rapport au narcissisme, je pense qu'il peut y avoir un narcissisme malheureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une complaisance de soi dans la découverte de soi-même, mais au contraire, une horreur, une prise de conscience de quelque chose duquel on ne peut pas s'échapper, qui est son identité, mais une identité qui vous terrorise, que vous n'aimez pas. Et donc, moi, j'appelle ça le narcissisme contrarié. Et je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui se sont posé la question du miroir et le reflet qu'ils voyaient les troublait, mais de façon très négative. Et c'est pour ça que le métier d'acteur vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais simplement aussi savoir, en période de selfie et de fascination de la jeunesse, de la beauté et de l'image superficielle, ce que vous faites justement du complexe de narcisse par rapport à la période dans laquelle on vit.
Mais je crois qu'on n'est pas du tout narcissique, parce que quand les gens sont sur les réseaux sociaux, c'est souvent ils sont dénarcissisés parce qu'on est en train de mesurer et de prendre place de leurs engagements et on les dénarcissise. Narcissiser, c'est se rencontrer, mais vous avez raison de souligner, se rencontrer, c'est se rencontrer autre, se rencontrer divers, se rencontrer comme un inconnu. On ne se rencontre jamais comme une identité fixe. Donc être narcissique, c'est se rencontrer en étant prêt à accepter l'inconnu, l'étrange, les contradictions qui nous habitent, et non pas être enfermé dans une image. Et être enfermé dans une image, c'est le contraire du narcissisme.
Narcisse, accusé non coupable, c'est l'une des émissions qui va vous accompagner sur France Culture. Ça sera le dimanche de 12h à 12h30. D'autres nouvelles personnalités au micro.
Oui, peut-être mentionner que ces mêmes week-ends de la grille d'été, Nathalie Azoula nous proposera 8 entretiens avec 8 écrivains qui pratiquent quotidiennement aussi bien l'écriture que le sport. Et Alain Prochian a invité quelques sommités de toutes les disciplines pour s'interroger sur l'imagination. Peut-être mentionnons aussi notre grand feuilleton documentaire mené par Michel Pomarède, enquête historique sur les chasseurs de nazis.